Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez sans doute, chers amis, pris le petit feuillet, donc vous savez que pour cette année du 4e centenaire de la mort de Saint François de Sales, c'est libre, entrée libre. Si vous le souhaitez, donc toute l'année, il y aura 6 récollections dans cette chapelle pour découvrir le secret de la sérénité. C'est amusant, d'ailleurs, vous avez dû remarquer le lien avec l'évangile de ce jour que nous n'avons pas programmé. Pour cette première causerie introductive, quelques mots. Existe-t-il un secret de la sérénité? Toutes les époques de l'histoire ont quêté la paix intérieure. Je suis sûr que au top 50 des valeurs plébiscitées par les gens, je suis sûr que la sérénité arrive en premier. Si la quête de la sérénité a existé de tous les temps, je ne vais pas y revenir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, avec ce monde, surtout mondialisé, c'est une sorte de village globalisé, la moindre nouvelle à des milliers de kilomètres devient la nôtre. Et ce qui fait que les gens souffrent de voir tout cela et perdent la paix. Nous allons prendre comme grand frère, si on peut l'appeler ainsi, François de Sales, qui est le père de cette communauté, le père de la Visitation. Il y a une chose qui frappe chez François de Sales, c'est qu'il parle certes très bien de la sérénité. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il la vit. Le grand cardinal de Bérulle, de l'école française, disait de son temps que François de Sales possédait une paix imperturbable. Et il la communiquait aux personnes qui s'approchaient de lui. Il traitait les affaires de la terre avec les yeux fixés au ciel par pur amour de Dieu. Le voilà, mes amis, notre drame. C'est que nous traitons des affaires de la terre et avec les hauts et les bas des troubles dont on parlait tout à l'heure, mais nous ne sommes pas les yeux fixés sur Jésus. Sur qui avons-nous les yeux fixés? Sur nos problèmes. Et puis Dieu, ce serait la cinquième roue de la charrette. Alors vous vous étonnez de perdre la paix, mais ce n'est pas étonnant. Qui regardes-tu? Les problèmes ou le prince des problèmes? Qui regardes-tu? Ce qui trouble ou le prince de la paix? Deux paroles de Saint François de Sales pourraient être mises en exergue de notre propos. Vous allez voir, il dit la même chose, mais avec un angle d'attaque différent. Il dit « La paix et la tranquillité du cœur trouvent leur origine dans une parfaite confiance en la bonté de Dieu. » Des trucs tout simples, mais vrais. Le problème de la paix réside dans notre confiance. Et puis d'un autre point de vue, il dit, c'est l'abandon spirituel à Jésus qui vous conservera en la paix de votre époux éternel. Vous avez remarqué? Pas de paix profonde sans abandon. Et l'abandon conduit à la paix, parce qu'il s'agit de s'abandonner à Dieu qui est la paix par excellence. Je vous ai dit que notre ami François de Sales, c'est pas quelqu'un qui a écrit tous ses livres en faisant comme aujourd'hui on fait avec un ordinateur du fameux copier-coller. Sa doctrine, il ne l'a pas piqué, entre guillemets, dans différents auteurs. Il l'a piqué dans quoi ? Ici, dans sa propre expérience. Saint François de Sales peut nous parler de la paix au cœur de l'angoisse parce qu'il l'a vécu. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la jeunesse de François de Sales, je rapporte ce fait qui est une expérience fondatrice. Il doit avoir 18-19 ans, peu importe les dates exactes. Il est à Paris, sur exigence de son papa, pour faire des études de droit. Et il suit, en même temps, il est profondément religieux, et à l'époque, il y a ce qu'on appelle, avec le protestantisme, Luther, Calvin, etc., qui ont tendance à exagérer les thèses de saint Augustin. Il y a ce qu'on appelle la doctrine de la prédestination. C'est-à-dire que une lecture extrêmement raide de saint Augustin conclut que certains seraient prédestinés au ciel avant même qu'ils aient décidé, et d'autres seraient prédestinés à l'enfer sans l'avoir voulu. Et à un moment, François se laisse impressionner par cela. Il dit « Moi, François, suis-je du nombre de ceux que Dieu a ordonnés à la vie éternelle ou à la damnation ?» Ça le travaille tellement, chers amis, qu'il en tombe malade. N'hésitez pas à vous approcher, madame, et à vous asseoir. En décembre 1586, la tension intérieure est insoutenable. Il n'en peut plus. Vous ne connaissez pas ça ? Mais si, vous avez connu ces trucs-là. Pas forcément avec la prédestination, mais avec des problèmes de famille, avec n'importe quoi, qui nous mettent par terre. Il n'en peut plus, il n'y a plus qu'une solution, puisque en lui-même ce n'est que trouble, qu'une nuit. Alors il dit, il n'y a plus que le ciel. Il rentre dans l'église qui existe à l'époque de Saint-Étienne des Grès, il va à la chapelle de la Sainte Vierge, qui est la chapelle de la Vierge Noire, et il la supplie. Seigneur, dans l'éternel décret de votre prédestination et de votre réprobation, vous dont les jugements sont un abîme immense, je vous aimerai, Seigneur, au moins en cette vie, s'il ne m'est pas donné de vous aimer dans la vie éternelle. Écoutez la finale magnifique. Si je dois être maudit parmi les maudits qui ne verront pas votre très doux visage, accordez-moi au moins de n'être pas de ceux qui maudiront votre saint nom. » Alors c'est sûr que ce genre de questionnement, on ne se le pose plus aujourd'hui. Qui enseigne le péché ? Qui enseigne l'au-delà ? Depuis que M. Michel Polnareff est passé par là, on ira tous au paradis, c'est bien connu. On n'a plus ces angoisses-là, c'est catastrophique. On n'a plus l'angoisse de notre salut. Je ne sais pas si vous le savez, mais sainte Faustine, une autre sainte, qui a eu une visite guidée du purgatoire et de l'enfer, elle dit « Je vis beaucoup de gens qui étaient au purgatoire, en enfer, pour ne pas avoir cru à l'enfer. » Et ne comptez pas sur moi pour vous donner un discours janséniste, je ne connais pas. Mais Dieu veut la liberté des personnes. Nous n'irons pas au ciel malgré nous. C'est ça que je veux dire. Il fait cette prière, il ajoute, semble-t-il, une prière à Marie, mais enfin j'ai trouvé des auteurs qui étaient différents. Certains ont dit que c'était le Salve Regina et d'autres le Souvenez-vous. Il semblerait que ce soit le Souvenez-vous. Et là, l'âme sœur de François de Sales, Jeanne de Chantal, qui est aussi la mère de cette communauté, puisqu'il lui a raconté après, elle dit « En ce même instant où il a supplié la Vierge Marie, souvenez-vous, très sainte Vierge Marie, il se trouva parfaitement et entièrement guéri, il lui sembla que son mal était tombé sur ses pieds comme des écailles de lèpre. Paix, abandon, amour, voilà les bases sur lesquelles nous sommes appelés à fonder notre vie spirituelle, à l'asseoir. Au cours de ce premier chapitre, nous allons tenter de montrer comment l'amour de Dieu est le socle de notre abandon et comment cet amour divin appelle notre réponse d'amour en forme d'abandon. Une petite note avant cela. Est-ce que vous comprenez, avec ce qui vient de se passer, l'autorité spirituelle de François de Sales? Elle ne se fonde pas sur le fait qu'il parle très bien, qu'il prêche très bien. Son autorité spirituelle se fonde sur le fait qu'il a vécu l'expérience. C'est autant un maître qu'un témoin, et comme a si bien dit le pape Paul VI dans son encyclique sur l'évangélisation, les jeunes d'aujourd'hui écoutent plus facilement les témoins que les maîtres, et s'ils écoutent les maîtres, c'est parce que ce sont des témoins. Petite parenthèse, c'est ça qu'il nous faut demander pour le renouveau de l'Église, qui est bien fatiguée et bien abîmée, je ne vous fais pas de dessin. Il faut demander des prêtres qui font l'expérience de Dieu. Pas simplement qui nous disent des choses sur Dieu, mais qui font l'expérience de Dieu. Il nous faut demander des religieuses qui fassent l'expérience de Dieu, plus que de dire de belles choses sur Dieu. Il nous faut demander des fidèles dans les paroisses qui osent basculer dans l'expérience de Dieu. C'est à ce prix-là que nous aurons un renouveau de l'Église. Tous les saints l'ont dit à travers les siècles, et un saint qu'aimait particulièrement saint François de Sales, saint Charles Borromée, dit « Nous n'avons pas besoin de réformateurs, nous avons besoin de saints ». On peut se demander aujourd'hui si des fois, comme avait dit un cardinal belge, on n'est pas dans une Église qui passe son temps à faire des réformes. Nous avons besoin de saints pour le renouveau de l'Église, mes amis. Et dites pas, oui, c'est pour le jardin du voisin, cette affaire-là. Non, pour toi, toi. Car être saint, ce n'est rien d'autre que faire l'expérience du Saint de Dieu, qui est l'Esprit Saint. À propos de cette contemplation de l'amour, nous allons prendre beaucoup de hauteur, si vous le voulez maintenant, pour voir, puisque le cœur de l'expérience, c'est l'abandon à Dieu, pour que, s'abandonnant au prince de la paix, il nous donne sa paix. Alors je vous propose de prendre un peu de hauteur à l'école de François de Sales. En Dieu, Trinité, tout est abandon parce que tout est amour. Et tout est amour parce que tout est abandon. La psychologie dit qu'un petit enfant accède souvent à la connaissance de Dieu par ses parents, par l'amour de son père, qui sont pour lui comme des icônes du visage du Très-Haut. Notre ami François de Sales a été très favorisé dans ce domaine. Il avait un père épris de justice, certes pas du genre « bonjour la tendresse, hein, fallait que ça suive », mais épris de justice, profondément chrétien, comme il le prouvera quand François viendra contrecarrer les projets du père qui voulait en faire un magistrat. Et il lui dit « je vais être curé ». Et puis il a une maman, là les mamans, une maman extraordinaire, profondément religieuse. Écoutez les paroles du petit François de Sales. « Dieu et ma mère m'aiment bien ». Vous ne trouvez pas ça extraordinaire les mamans? Ça doit vous parler, non? Grâce au cœur très tendre de sa maman, de la terre, François s'est découvert aimé de Dieu. Dieu, le bon Dieu et maman m'aiment bien. Et cela le pousse à se jeter dans le divin cœur de Jésus. Et là, il contemple la Trinité. Et la Trinité, mes amis, n'est pas un mystère froid. C'est un volcan d'amour. Tout autre En cet amour infini par lequel le Père et le Fils s'entr'aiment, car en cet amour, ils ne se fondent pas, ils ne se dissolvent pas, ce qui serait imperfection. Ils produisent un Saint-Esprit, Dieu parfait du Dieu parfait, possédant en plénitude une même divine essence entre eux, et sans se défaire de l'essence divine, ils la communiquent tout entièrement à ce Saint-Esprit et amour. Pour dire les choses autrement, le Père aime tellement le Fils qu'il, retenez bien le mot, qu'il s'abandonne totalement au Fils. Le Fils, en retour, aime tellement le Père qu'il s'abandonne à son Père. Et cet abandonnement est si puissant qu'il produit la troisième personne qui s'appelle la Trinité. Ne dites pas « Ah, oh, mon Père, la Trinité, c'est compliqué. » Si vous avez une famille, il n'y a pas plus belle image de la Trinité qu'un papa, une maman et un enfant. Bien sûr, avec les limites de la comparaison, mais tout de même. Si vous, qui avez été marié, qui avez une famille, vous ne comprenez pas la Trinité, mais qui va le comprendre ? Deuxième note. Essayons de voir maintenant un double mouvement en forme d'alliance. Comment Dieu, à travers l'histoire du salut, s'abandonne aux hommes et comment en retour il attend que les hommes, l'homme, l'âme, s'abandonnent à Dieu. Comment Dieu s'abandonne entre les mains des hommes. Voyons le grand phénomène, le grand bouleversement, l'incarnation, un Dieu qui vient planter sa tente parmi les hommes, plus que cela, un Dieu qui se fait homme. Le drame des catholiques, des prêtres, de moi-même, hein, attention tout le monde, c'est que nous finissons par nous habituer à la foi comme si c'était normal. Comme si c'était un dû, à savoir que Dieu serait venu dans le monde, il avait intérêt, non, il n'était pas, il n'avait pas à le faire. Il l'a fait purement gratuitement. En entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Épître aux Hébreux, reprenant le psaume 40. N'allons pas imaginer que cette union de volonté fut marquée au coin par le moindre déséquilibre dans la relation entre le Père et le Fils. La volonté du Père n'a rien d'un sadisme. Combien de catholiques pensent ça ? Enfin, comment il a fait pour le laisser mourir sur la croix ? Pour s'incarner dans une crèche où il avait froid. Il n'y a aucun sadisme dans le cœur du Père. Qu'est-ce qu'il veut ? La petitesse du Fils se faisant homme ? La souffrance de Jésus sur la croix ? Non, il ne veut qu'une seule chose au final, que les hommes aient la vie. Que les hommes reviennent à lui. Si vous n'avez pas cette clé, tout le mystère de ce qu'on appelle l'économie du salut est imbuvable. L'acquiescement de Jésus non plus n'est pas marqué par le moindre déséquilibre psy, comme si le Fils était doloriste et prenait plaisir à souffrir comme il a tant souffert dans ce martyr unique qu'est la passion du Seigneur Jésus. Voulez-vous à nouveau refermer la porte ? C'est pour vous. Je ne voudrais pas que vous ayez trop froid. François de Sales considère logiquement l'incarnation comme un baiser d'amour. Les pères de l'Église, écrit-il, considérant cette parole du Cantique des Cantiques que l'épouse adresse à son époux, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. disent que ce baiser qu'elle désire si ardemment n'est autre que l'exécution du mystère de l'incarnation de notre Seigneur. Baiser tant attendu et souhaité pendant une si longue suite d'années par toutes les âmes qui méritent le nom d'amantes. Qu'est-ce que nous voyons dans cette incarnation? Vous avez entendu l'Épître aux Hébreux, qui est une réminiscence du psaume 40. C'est qu'on peut dire que la seule obsession du Seigneur Jésus tout au long de ces 33 années, c'est ceci. Papa, Papa du ciel, c'est quoi ta volonté? L'union de volonté, faire la volonté du Père, est la nourriture même de la vie de Jésus. Je suis même persuadé, puisqu'on le voit chez les saints, Thérèse d'Avila le dit, Jean de la Croix, c'est une telle nourriture de faire la volonté de Dieu que Jésus permet que certaines âmes d'élite se passent de nourriture par la seule acte d'obéissance qui est l'Eucharistie. Pourquoi fait-il ça? Pour jouer les Gérard Majax, David Copperfield, pour nous impressionner? Non. Pour dire aux chrétiens installés, est-ce que vous réalisez ce que c'est que la messe? La messe, c'est Dieu. La messe, c'est votre vie. La messe, c'est votre nourriture. À nouveau, François de Sales. À l'instant de son incarnation, Jésus vit et lut dans le livre de la prédestination tout ce qu'il devait souffrir. Ce livre était intitulé « La Sainte Volonté de Dieu ». Or, pendant toute sa vie, notre Seigneur ne fit autre chose que lire, pratiquer et garder tout ce qu'il y trouva écrit, ajustant ses volontés à celles de son Père tant aimé, comme il le dit lui-même dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 6. « Je suis descendu du ciel pour faire non plus ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Incarnation, un autre mystère extrêmement important, vous le devinez, c'est la rédemption, si vous préférez, la passion, résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. François de Sales, pour peu que vous vous plongiez dans une biographie à son sujet, vous serez frappé par son extrême optimisme. Alors vous allez me dire, il avait un bon tempérament? Non. Il puisait son optimisme dans l'histoire du salut. Rappelez-vous ce qu'on chante à la veillée pascale? Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Qu'est-ce qui fonde l'optimisme? Il faudrait être plus exact, l'espérance de notre François de Sales. C'est qui dit, avec Jésus, il n'y a jamais de mur sur lequel on va s'écraser. Il ouvre toujours une brèche, ça s'appelle Pâques. Pâques veut dire passage. Il dit, l'état de rédemption que nous vivons, chers amis, vaut 100 fois mieux que celui de l'obéissance. C'est par l'orgueilleuse désobéissance du premier couple, et que nous reproduisons nous-mêmes par nos propres péchés, que l'homme s'est coupé de Dieu, et c'est par l'humble obéissance de notre Seigneur Jésus, fait homme, que cette alliance fut réparée et rehaussée. À nouveau, François de Sales, Adam voulait se rendre semblable à Dieu, voulant vivre de sa vie comme l'ennemi l'en avait assuré, quand il trahit le commandement de la juste majesté. Remarquez ici, je vous prie, l'infinie bonté du Sauveur qui voulut mourir de la mort des hommes pour nous faire vivre de la vie de Dieu. Ça fait maintenant pas mal d'années que je suis prêtre. Je vous fais une petite confidence. Je ne pourrais plus célébrer la messe comme au début de mon ministère, où on nous demande de célébrer des messes de jeunes qui tournent plus à la foirinette qu'au saint sacrifice de la messe. Je ne pourrai plus. Je dirai à l'autorité, non, je dirai gentiment, parce qu'il faut toujours être respectueux avec l'autorité. Je dirai, non, je ne peux pas. Jean-Paul II dit, depuis 50 ans que je célèbre la messe, je suis bouleversé par le fait que le temps entre le Golgotha d'il y a 2000 ans et moi aujourd'hui qui célèbre la messe, il y a comme une contraction du temps qui fait que je deviens contemporain du sacrifice de la croix. Je suis persuadé qu'on ne refera pas venir les jeunes à coups de batterie et de guitare électrique. On les fera revenir quand on leur donnera le mystère de la messe, qui est le sacrifice de la croix rendu présent. Je vous donne un petit exemple qui m'a beaucoup marqué quand j'étais vicaire. Je faisais des retraites de profession de foi, et puis bien sûr pédagogie de Don Bosco, que nous allons célébrer demain. Je demandais à des mamans, des papas de venir, mais aussi à des jeunes, pour que les plus jeunes voient des grands jeunes. On fait la retraite, et puis à un moment, je leur faisais une causerie sur la passion du Seigneur Jésus. Un an après, réunion avec les mêmes grands jeunes pour préparer une nouvelle retraite. Des gars qui ne sont pas des grenouilles de bénitier, hein, pas confis en, hein, en piété, hein, des gars et des filles de la vie, quoi. Ah, Père Joël, vous pourriez refaire la causerie sur les souffrances de Jésus et la passion? Ce sont les jeunes qui le demandent. Voyons précisément ce qui se passe à la croix. Parce que là, nous allons avoir, je vous ai dit, nous prenions un peu de hauteur, non pas pour nous éloigner de notre sujet, mais pour le fonder. Notez bien ceci, à la croix, Jésus abandonne son abandon entre les mains des hommes. Je vais m'expliquer. Il est dit en Luc 23, 45, jetant un grand cri, Jésus dit, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. À la croix, cette dernière parole de Seigneur Jésus, il expira, il rendit l'esprit. « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » C'est l'acte suprême de l'abandon. Et après, il n'y a plus rien. On peut dire que le testament de Jésus est son abandon. Le testament de Jésus, sa fortune, réside entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà pourquoi le titre qui pouvait paraître bizarre est tout à fait fondé. Jésus, à la croix, abandonne son abandon entre les mains des hommes. Et maintenant la question c'est qu'est-ce que tu vas en faire ? On peut dire que son expiration, avec le souffle humain, qui est en même temps le souffle de l'Esprit, la mort de Jésus est déjà un souffle pentecostal. Je veux dire plus simplement, c'est déjà la Pentecôte à la croix. Écoutez, François de Sales, il y a une belle petite parole là-dessus. En français, nous avons une expression particulière pour désigner la mort des hommes. Nous l'appelons trépas. Et les morts, nous les appelons les trépassés, un peu moins aujourd'hui. Nous signifions ainsi que la mort n'est que le passage n'est que le passage d'une vie à une autre. Et il dit, il applique cela à la volonté, notre volonté propre, devant s'ajuster à la volonté. Notre volonté, elle, ne peut jamais mourir, ni notre esprit. Mais il arrive qu'elle outrepasse les limites de la vie ordinaire pour vivre tout entière dans la volonté de Dieu. Je me suis permis de vous partager tout à l'heure dans l'homélie, très simplement, le trouble que j'ai vécu l'autre après-midi, juste avant mon adoration, et donc qui aurait dû remettre en l'air toute ma prière. Et si je vous dis cela, ce n'est pas pour m'étaler, c'est parce que je sais que vous vivez la même chose. Il y a des hauts et des bas. Bon. Qu'est-ce qui a fait que la paix est venue rapidement? Ceci, notez-le bien, parce que c'est le cœur du problème. Mais beaucoup ne veulent pas entrer là-dedans. Et après, ils disent, mon père, vous ne pourriez pas me dire comment faire? Non, non, non. Il y a un moment, j'ai dit, puisque tu le veux, le trouble, tu l'as permis, je le veux bien aussi, et je vais y descendre avec toi à l'intérieur. Notez bien ça, c'est la grande clé qui ouvre le secret du vrai bonheur. Comme la plupart des gens vivent des moments où ils ne sont pas bien, et ils ne disent pas oui parce qu'ils n'y voient pas la volonté de Dieu qui le permet. Je le dirai cet après-midi sur la Providence. Il ne veut jamais le mal, mais il s'en sert pour un plus grand bien. Lequel? Ta purification. Et si vous oscillez, parce que je vois des têtes qui bougent, il y a des pas à faire. Il y a des pas à faire. Il y a une purification. Ce n'est pas parce qu'on va à la messe tous les dimanches, et parfois plusieurs fois par semaine, qu'on est entré dans ce mystère-là, qui est le cœur de la vie chrétienne. Alors, quand je vous parle d'abandon, est-ce que vous voyez où je veux en venir? L'abandon, ce n'est pas un lâcher-prise à la sauce New Age. Qu'est-ce que c'est l'abandon chrétien? L'abandon chrétien, puisque Jésus nous en fait le testament à la croix, je ne peux pas m'abandonner sans l'abandon de Jésus qui m'est donné. Autrement dit, l'abandon que vous désirez vivre, sinon vous ne seriez pas venu, alors qu'il ne fait pas très chaud, vous êtes admirable. Eh bien, l'abandon, ce n'est pas une technique psy, ce n'est pas une technique de relaxation. L'abandon chrétien, c'est brancher son cœur sur le cœur de Jésus qui s'abandonne et qui me donne son abandon. Qu'est-ce que c'est mon abandon? C'est une participation à l'abandon de Jésus. Et vous comprenez pourquoi Jésus il dit, une des seules paroles, je vous signale, dans l'évangile, je crois que c'est dans Matthieu 11, où il est question du cœur de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui peinez. » Qui est-ce qui peine pas par ici? Il n'y en a pas un, il n'y en a pas une. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Pourquoi il y a peu de repos? Parce que les gens viennent à eux-mêmes dans leurs troubles, au lieu de venir à Jésus. Il a dit « Venez à moi », il n'a pas dit « Viens à toi ». En quoi on vient à soi? En collant aux émotions, au lieu de s'en décoller, pour mieux regarder le Seigneur Jésus. Et donc, qu'est-ce que c'est l'enjeu de l'abandon? C'est d'apprendre à se recevoir de Dieu, à se recevoir du Christ en son abandon. Ce n'est pas un truc qu'on fait tout seul, un bras de fer, et on serait laissé à nous-mêmes avec nos propres forces et nos propres vertus. Et débrouille-toi, dirait Jésus. Non, il nous dit, Joël, tu n'arriveras pas à t'abandonner si moi-même je ne mets pas mon abandon dans ton abandon. Et donc viens à moi, abandonne-toi à moi. Écoutez cette parole forte. Vous voulez savoir quel fondement doit avoir notre confiance? Dit François de Sales. Il faut qu'elle soit fondée sur l'infinie bonté de Dieu et sur les mérites de la mort et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, avec cette condition de notre part, que nous ayons et connaissions en nous une entière et ferme résolution d'être tout à Dieu. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans un monastère pour cela, dans la vocation qui est la vôtre. Ce qui me frappe, je vais vous dire, dans les retraites, c'est qu'on rencontre des laïcs qui sont plus avancés dans les voies de Dieu que des consacrés. C'est admirable. C'est une claque pour les consacrés que nous sommes, je peux vous dire. Je comprends pourquoi Jésus a dit à Marguerite Marie, à Parel Monial, que ce sont les consacrés qui le font le plus souffrir. Parce que c'est eux-là qui devraient être plus saints que les autres, à cause des dons qu'ils ont reçus. Écoutez ce qu'il dit. Tenez ferme cette résolution d'être tout à Dieu et de nous abandonner totalement et sans réserve à sa providence. Oh, j'y reviendrai. Voici comment Dieu s'abandonne entre les mains de l'homme et maintenant comment en retour il invite les hommes, les femmes, les enfants à s'abandonner à lui. L'optimisme de saint François de Sales, dont je parlais il y a l'instant, se fonde sur l'amour de Dieu. Il se fonde sur la volonté que Dieu a de se donner à l'homme pour que celui-ci en soit comblé. Il dit « Les gens pensent que Dieu nous aime en ce moment. Tout changera dans leur vie chrétienne quand ils commenceront à comprendre que Dieu nous a voulu chacun et aimé de toute éternité. » Je crois qu'il y a une belle parole de François de Sales qui dit que Dieu nous a commencé à nous aimer dès qu'il a existé. Bon, vous voyez bien, la formule n'est pas exacte, puisqu'il n'y a pas de moment où il a commencé à exister, puisqu'il est éternel. Mais c'est pour nous montrer. Moi, je remarque ça. Tiens, je vous donne un petit fait qui va vous éclairer, qui a été pour moi bouleversant. Je m'en vais prêcher, vous ne pouvez pas savoir où, je m'en vais prêcher un jour chez des religieuses. C'était bien loin d'ici. Et la supérieure me dit, « Mon père, il y a un vieux prêtre qui est à côté, qui ne fait pas la retraite, bien sûr. Il voudrait absolument vous voir. » Mais je dis, « Mais moi, je ne le connais pas, ce père, enfin, quoi. » Puis j'ai du travail, il y avait au moins 60 sœurs à s'occuper. Et puis j'écoute le bon Dieu et il me dit, « Vas-y, je vais voir ce vieux prêtre qui vit une terrible crise. » Il se demande si la volonté de Dieu, alors qu'il avait été ordonné prêtre depuis 50 ans, était qu'il soit vraiment prêtre. Il se dit, est-ce que maman de la terre, elle n'a pas un peu trop poussé ? Moi, j'étais admiratif. Il avait l'âge d'être mon père. Il me parlait avec une confiance incroyable. Et puis, à un moment, j'ai dû dire cette parole. Que le sacerdoce, Jésus, l'a voulu pour chacun des prêtres sur la croix, et encore plus de toute éternité. Je le quitte, on prie ensemble, il se confesse, et puis je l'ai oublié. Enfin, je veux dire, je l'ai oublié, j'ai quitté la ville. 6 mois après, je reçois une lettre de ce bon vieux prêtre. Mon père, toute ma crise d'angoisse et de larmes est passée. Je sais que je suis désiré de toute éternité. Ma vocation n'est pas un accident. Quand j'entends dire parmi les catholiques que tous ces trucs-là, c'est des idées et que ça ne change pas la vie et que ça ne donne pas la paix, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas dû basculer dans l'expérience. Ils sont en train de manipuler des concepts pour chatouiller les neurones, mais ils n'ont pas une vie avec Dieu, à l'évidence. Alors, comment Dieu entraîne l'homme à s'abandonner à son tour? Je voudrais pointer 2 pièges qui sont présents dans l'esprit de beaucoup. Je vous signale que c'est un peu présent dans l'athéisme moderne. Des maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, etc. Les gens pensent que Dieu, parce qu'il est tout-puissant, force. Étant donné qu'il est tout-puissant, ça serait une sorte de tank, et quand il passe, ben nous, on serait forcément écrasés. Et donc, que la liberté des personnes serait écrasé par un Dieu qui serait forcément un concurrent de l'homme et un écraseur, entre guillemets, de la liberté de l'homme. Saint François de Sales revient souvent là-dessus. Il nous dit que Dieu n'écrase jamais, jamais les personnes. Il n'écrase jamais la liberté. Jacques Maritain, ce grand philosophe thomiste, laïque, marié à Raïssa, dit qu'il n'y a pas d'être plus infiniment délicat que Dieu vis-à-vis de notre liberté. Si Dieu forçait la liberté, alors ça voudrait dire que la France entière serait catholique. À ce que je vois dans les médias, ça n'a pas l'air d'être trop le cas, rassurez-moi. Hein ? Donc quand j'entends ces discours, mais c'est vraiment des discours d'athées militants, quoi. Ça ne tient pas la route. François de Sales. Voici comment le Père du Ciel nous attire. Il nous enseigne en nous charmant. Comme les appâts par lesquels il nous attire, et il nous donne à goûter la douceur de ses préceptes. Notre liberté n'est nullement violentée par la grâce. La grâce est si gracieuse, elle saisit si gracieusement notre cœur pour l'attirer, qu'elle ne porte atteinte en rien à la liberté de notre volonté. Elle touche puissamment notre esprit, mais avec une telle délicatesse que notre liberté n'en est nullement forcée, la grâce est puissante, non pour contraindre le cœur, mais pour le séduire, si bien que nous pouvons consentir ou résister à ses mouvements selon qu'il nous plaît ou non. Il y a une parole de l'Apocalypse que vraiment j'aime beaucoup, je reprends souvent, Apocalypse 3:20. Jésus dit, du moins Saint Jean fait dire à Jésus, à Dieu, « Voici que je frappe, on va la personnaliser, « Voici que je frappe à ta porte. Si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je prendrai mon festin avec toi. » Je vous signale que dans la Bible, prendre le festin, c'est pas manger et bien boire, c'est le symbole de la communion. Voilà pourquoi le ciel est représenté de manière symbolique comme un festin. Autrement dit, j'entrerai chez toi pour t'unir à moi et moi à toi. Vous avez entendu ? Il est dit dans l'Apocalypse, je frappe à la porte, j'entrerai de force. Non. Voici que je frappe à la porte. Premièrement, si quelqu'un entend ma voix, la place de la prière. Est-ce qu'il y a du silence dans ta vie pour écouter Dieu? Ou est-ce que c'est toujours toi qui parle et baratine à Dieu? Dans tes prières, est-ce que c'est toujours des trucs de demande? Y a-t-il une place pour laisser Dieu parler? Vous savez, c'est un prédicateur qui disait ça à propos de... Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a le prophète, et puis à un moment, il entend dans la nuit, Jésus, pardon, je t'appelle, et puis il vient vers Élie, puis il lui dit, mais tu m'as appelé? Mais non, on va te recoucher. Et il y dit dans cette écriture, dans ce passage du Livre des Rois, je crois, parle Dieu. Ton serviteur écoute, c'est Samuel, vous vous rappelez? Et le prédicateur dit, souvent dans beaucoup de prières des gens, c'est « Écoute Seigneur, ton serviteur parle. » Les amis, si vous faites que parler, si vous ne laissez pas Dieu vous parler, si vous ne faites pas silence, mais comment voulez-vous qu'il puisse vous parler? Comment vous pouvez l'entendre? Vous voyez, j'ai vécu une forme de conversion 15 ans après avoir été ordonné. Et c'est une laïque aveugle qui m'a enseigné Dieu plus que des prêtres ou des religieuses. Donc arrêtons cette histoire d'aristocratie comme quoi il n'y aurait que les curés et les bonnes sœurs qui connaîtraient Dieu et les laïcs ne connaîtraient rien. C'est faux. Mais vous devinez, cette personne a beaucoup souffert. Et parce qu'on ne peut pas atteindre ces hauts niveaux de vie avec Dieu sans être purifié. Et au début où je cherchais, après avoir commencé, bien sûr, à aller voir mon évêque et puis à commencer à prêcher, puisque rien ne se fait sans l'obéissance à l'Église, elle me dit, « Mon père, si vous ne faites pas silence, vous n'entendrez jamais l'Esprit Saint vous parler. Dans vos journées, chers laïcs, y a-t-il de la place pour le silence, pour laisser Dieu être Dieu ?» Alors vous allez me dire, « Mais moi, il ne m'envoie pas des SMS. » Mais moi non plus. Mais il parle, comme dit petite Thérèse, sans bruit de parole. Et donc le cœur qui n'écoute pas n'entendra jamais rien, parce que c'est une voix spéciale. Il ne téléphone pas sur ton téléphone. Hein. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais ce n'est pas son mode habituel. Il est dit aussi, dans l'Apocalypse, non seulement si quelqu'un entend ma voix, mais si quelqu'un ouvre. J'y reviendrai, mais je vous donne un petit fait. Je maquille suffisamment, je ne mens pas, mais je maquille suffisamment pour qu'on ne reconnaisse pas les témoignages. C'est tellement important de garder la discrétion. Je suis allé prêcher un jour dans un monastère, et puis j'ai été très surpris, le responsable qui avait... tip top. Il vient me voir et puis il me dit ses souffrances. Il a souffert de gens d'église, comme on dit. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce qu'il découvre? Puisqu'on a parlé à un moment de la Providence, il me dit, « Ah, mon père, j'ai compris. Je fais de la prière. » Il fait que ça. Mais sur un point qui a été douloureux dans ma vie, j'ai pas dit oui. Et j'ai pas permis à la Providence de venir me prendre. J'ai, comme dit l'Apocalypse, fermé ma porte. Et ça empêche Dieu de rentrer. Ce responsable était mais complètement dilaté à la fin de la retraite. Il avait commencé à dire oui, ce sur quoi il n'avait pas dit oui depuis des années. Revisite tes problèmes. Ah, on fait de la piété. Ah ben ça, on en fait, oui. Mais les oui ne sont pas prononcés. Et après, on se plaint qu'il y ait des amertumes dans l'âme, des problèmes qui demeurent. N'oubliez pas, c'est très important. Il n'y a pas plus respectueux de ta liberté que la providence de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ouvre, et comment on ouvre à Dieu? Par le oui. Sur le moment, on ne comprend pas, on peut même avoir mal, comme moi j'avais mal l'autre jour. Mais c'est quand on dit oui que le mal commence à tomber. Autre point très important, Dieu, ce n'est pas un corps étranger. Si vous êtes de la campagne ou si vous avez eu des parents qui étaient à la campagne, ça va vous parler. Je vais vous raconter ce que me disait mon grand-père. Mon grand-père avait des vaches au sud de Nantes. Il était tout petit. Et puis un jour, il me dit, « Tu vois la vache là? Regarde. » Elle n'est pas bien, elle est maigrichonne, et elle ne marche pas bien. Mais qu'est-ce qu'elle a, grand-père? Je crois qu'elle a un corps étranger. Alors, j'ai un corps étranger. Eh bien, en mâchonnant l'herbe, elle avait dû avaler un morceau de métal. Ça vous parle? Je sens que... Et les gens se disent, Dieu en nous, c'est comme un corps étranger. Quelque part, on ne serait pas trop fait pour Dieu. Or, que nous dit l'Écriture et que nous disent les pères de l'Église? L'homme est capax Dei, capable de Dieu. C'est-à-dire que notre mémoire est inscrite Dieu. Tout le monde est fait pour Dieu. Même la totalité de cette France qui devient de plus en plus renégat, athée, apostat. Les gens ne le savent pas, mais il y a comme un désir de Dieu orienté vers eux. Et chez tous, sinon ils ne seraient pas. J'ai perdu un bon ami il y a quelques semaines. Il a été athée pendant 50 ans. Et en plus, il bouffait du curé. Pas au sens de la parole amusante, parce que son travail l'y obligeait. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Il a fait un cancer. Je suis allé le visiter à l'hôpital. Il y a une amitié très grande qui a commencé. Il est marié, il était marié. Et au sortir de l'hôpital, voilà, il a commencé à chercher Dieu. Et puis, il a fait une retraite. Moi, ce n'est pas moi qui ai prêché, j'étais vicaire de paroisse. Il est rentré, tenez-vous, il n'avait pas la foi. Il est rentré à la retraite chercheur de Dieu. Il est sorti trouvé par Dieu en une semaine. Et il disait, mais Père Joël, mais comment ça se fait que je ne savais pas? Comment ça se fait que Dieu a attendu tant de temps? C'est comme ça. François de Sales utilise une belle image qui vaut parler aux gens qui ont des racines rurales parmi vous. Les perdrix. Vous voyez ce que c'est les perdrix? Il dit ceci. Il arrive souvent que les perdrix, soit parce qu'elles veulent avoir des petits, soit par stupidité, couvent des œufs qui ne sont pas les leurs. Et voici une chose étonnante, ajoute-t-il, et pourtant très très vérifiée, l'œuf de perdrix étant éclos, au premier appel de sa vraie mère, il va quitter la mère qui le couvait pour aller vers sa vraie mère. C'est bouleversant, non ? Et il dit, ce lien ne paraissait pas, il était demeuré caché, secret, il dormait au fond de la nature. Bien qu'il en est de même de notre cœur, bien qu'il soit couvé, nourri, élevé au milieu des bassesses de ce monde, voilà qu'à la première pensée vers Dieu, à la première connaissance qu'il en reçoit, son inclination naturelle à aimer Dieu, qui était invisible et comme assoupi, se réveille soudain. Si vous savez la joie que c'est pour un prêtre, si vous savez la joie dans les retraites, ne croyez pas qu'on reçoit des gens triés sur le volet. Avec Internet maintenant, vous avez des gens qui viennent en retraite, ils ne savent même pas faire ça. Le minimum. Et en une semaine, vraiment, si vous osez cette expression, il n'y a pas de plus beau métier, même si le métier n'est pas indiqué, que d'être prêtre. Voir des gens naître à la lumière. Voir des gens renaître à la lumière. Il n'y a pas de prix. C'est extraordinaire. Dieu était là. Soit il l'avait étouffé par le péché, soit il ne le connaissait pas. Soit on leur avait dit que ces histoires de curés, il ne faut surtout pas écouter ça. Et puis tout d'un coup, une étincelle. Et on revient vers la vraie perdrix, la vraie maman, Dieu lui-même. Il est l'heure, je vais m'arrêter, par ceci. Mais vous allez me dire, d'accord, Dieu nous livre son abandon. D'accord, il respecte infiniment notre liberté. D'accord, nous sommes faits pour lui. Mais il a vécu il y a 2000 ans. Comment on le rejoint, nous, aujourd'hui? L'Église, les sacrements, c'est quoi pour vous? C'est des trucs symboliques? Tout à l'heure, à la messe, comment vous vivez la messe? Est-ce que pour vous, C'est une machine à contracter le temps, si je puis parler ainsi. Est-ce que vous réalisez que c'est le même Jésus qu'a porté la Sainte Vierge dans son sein? C'est ce même Jésus qui a été crucifié au Golgotha. C'est ce même Jésus que vous recevez? Si vous vivez à ce niveau-là, ce n'est pas possible que vous viviez la messe de la même manière. Vous verrez, vous n'arriverez plus en retard à la messe. Ce n'est plus possible. Quand on sait qu'on est convoqué par une convocation d'amour d'un Dieu crucifié exprès pour moi, ce n'est pas possible de « bon, je verrai si je suis à l'heure ». Ce n'est pas possible. Ces indélicatesses n'ont plus lieu d'être. Je termine. À propos de la messe, le centre de la religion chrétienne, le cœur de la dévotion, c'est le saint sacrifice de la messe, dit notre bon Père. Et écoutez, il utilise une image pour nous montrer comment, messe après messe, comme dirait saint Augustin, nous allons devenir ce que nous recevons. Ça va déteindre. Dieu va déteindre sur nous. Écoutez la parabole magnifique. Il dit: l'hiver, les lièvres de nos montagnes deviennent blancs parce qu'ils ne voient et ne mangent que de la neige. Vous ne trouvez pas ça super comme comparaison? Vous, mes chers chrétiens, à force d'adorer et de manger la beauté, la bonté et la pureté de ce divin sacrement, vous deviendrez bonnes, belles et pures. Ce n'est pas possible, si on est fervent, de recevoir Dieu tous les jours, ou au moins toutes les semaines, sans, avec le temps, ne pas devenir Dieu lui-même par participation.